18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
J'adore. Le direct, c'est ça le direct. Vous direz pas que c'est enregistré, voilà. Bonsoir, chers amis auditeurs. Quel plaisir de vous retrouver cette semaine. Oh là 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 là. Anthony, bonsoir.
On va y arriver. Bonsoir, Adil.
Comment ça va bien? Le week-end, ce fut intéressant.
Ce fut très intéressant. Bravo pour ton passage.
Ah bah 18 ans, c'est la classe, c'est toi, c'est ton âge, ça.
J'en ai 20. T'es gentil de me rajeunir.
C'est bien. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On démarre cette semaine avec, évidemment, plein de bonnes choses. Tout d'abord, nous irons regarder, observer ce tremblement, ce séisme qui a fait 988 blessés et 386 morts dans le nord de la Syrie, mais également aussi, vous savez quoi, en Turquie. Nous reviendrons sur ce terrible bilan, évidemment, ici même, sur Beurre FM, dans les informés. Ensuite, après, à 18h20, j'ouvrirai l'antenne pour vous écouter, chers amis auditeurs, comme d'hab, comme tous les jours. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ah là 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 là. Clochette. Qu'est-ce que ça fait plaisir, les amis. À 18h30, Maître Serfati viendra nous exposer son regard juridique et son actualité, justement, pour nous parler de son quoi de neuf. Ensuite, les débatteurs influenceurs. Ils sont quatre ce soir, qui vont évidemment débattre, confronter leur point de vue. Confronter leur point de vue parce qu'il y a des sujets qui ont retenu notre attention. La retraite, ça rame, ça piétine. Les débats s'ouvrent. La semaine s'annonce rude. Clochette. Ah là 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 là, chers amis. Ensuite, Aurore Berger qui... pleut. Vous savez quoi? Bah attends de mettre la clochette, j'ai rien dit encore. Aurore Berger qui tacle, je disais, qui faisait référence au député de droite. Voilà, clochette. Donc là, on peut le dire. Oh, Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il dit Jean-Luc Mélenchon millionnaire, mais moi, je le suis pas. Oh là là, c'est tristounet. Ah bah on va te donner l'idée pour te montrer comment vous pouvez être milliardaire. C'est tout d'un coup, je me mettais à tutoyer, n'est-ce pas?
C'est la joie.
Ouais, c'est la joie. Ensuite, nous parlerons de son ballon, de ce ballon espion. Les relations entre la Chine et les États-Unis, est-ce qu'elles sont gravement affectées? Clochette. Ça, c'est le programme qui vous attend. Toutes la soirée de 18h jusqu'à 19h30 et c'est parti tout de suite en liberté, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30 et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour.
Les informés. Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec un écrivain franco-syrien. Justement, il s'appelle Adnan Azam. Bonjour Adnan Azam.
Bonjour cher Adil.
Comment allez-vous?
Est-ce que, même si je suis en direct, je peux vous demander d'enregistrer cette interview pour que je puisse... Parce que absolument... Non, vous savez quoi, c'est pas pour moi faire la piste.
Mais bien sûr, c'est de facto...
Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une tragédie, une véritable tragédie en Syrie, et j'ai envie de le mettre sur tous les réseaux avec lesquels on communique de la Russie jusqu'à la Chine, et pour que les gens puissent réellement prendre conscience que le mot tragédie, c'est pas un mot qu'on le dit comme ça en buvant un café au quartier de Paris.
Je vais vous faire plaisir, mon cher Adnan. Justement, toutes nos émissions sont enregistrées, rediffusées le soir très tard, et en plus, elles sont en lien podcast sur le site de Beurre FM. Voilà.
Eh ben c'est parfait.
Voilà.
C'est
donc, Adnan Azam, vous êtes un véritable voyageur dans le temps. Évidemment, vous nous embarquez à la découverte de plein de choses. Vous êtes écrivain. Vous m'arrêtez, évidemment. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Notamment, on peut rappeler le dernier en date, mon cher Adnan Azam. Rappelez-nous celui, évidemment, avec lequel celui que vous avez le plus d'attachement.
Alors, celui le plus que j'ai attachement, tout ce que j'écris depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, parce que vraiment quand on écrit, ça veut dire qu'on met notre âme sur le papier. Ce n'est pas juste pour raconter des histoires. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Et moi, je ne suis pas uniquement un voyageur. Moi, j'ai une devise de trois mots. Penser, écrire, agir.
C'est pas mal.
D'abord,
c'est
on pense. Absolument, on pense. Après, on écrit nos pensées pour le tester auprès de nous-mêmes, auprès de nos entourages, auprès de la société et le monde qu'on prétend à défendre ou à se tenir. Et puis après, on agit. Parce que penser, écrire sans agir, ce n'est pas, ça reste quand même réduit. Et c'est pour ça aujourd'hui, depuis 4 heures du matin Je vis avec tout ce que je peux, mes coups de téléphone, mes actions en direct avec la Syrie pour soutenir ce peuple.
Parlons-en.
Absolument.
Adnan Azam, vous êtes un ancien journaliste aussi, donc le domaine de la politique, vous le connaissez. Vous êtes aussi le fondateur d'une association qui s'appelle Marche des Valeurs. Justement, c'était la relation entre l'Ouest et l'Est. Donc, justement, en tant que vous, ancien journaliste, et puis aujourd'hui écrivain franco-syrien, on va parler de ce séisme qui a fait 386 morts aujourd'hui, 988 blessés dans le nord de la Syrie. Terrible bilan provisoire, que peut-on dire à cette heure où l'on se parle, mon cher Adnan Azam?
D'abord, cher Adil, je voudrais de fond de mon cœur te remercier, toi, la radio, parce que aujourd'hui, dans les médias en France, malheureusement, on fait comme si la Syrie n'existait pas. Malgré 11 ans de guerre.
C'est un séisme en Turquie et en Syrie, hein, que les auditeurs savent.
Très peu. La Syrie est dans les médias intelligentes, mais dans les médias de masse. On n'entend pas le mot de la Syrie. Et puis tous les aides qui sont, ça y est, mobilisées, c'est pour aller en Turquie et pas aller en Syrie. Même l'Ukraine, ils vont apporter tout l'argent qu'ils ont pris en Europe pour le ramener en Turquie. Mais la Syrie, wallou, il n'y a pas un centime qui débarque de l'Europe en Syrie.
Pour quelle raison?
Ben ça, il faut demander à monsieur Macron, monsieur, tu sais, il faut demander aux élites de la nation qui ont décidé la guerre contre la Syrie, à l'époque où Laurent Fabius disait que Bachar al-Assad ne mérite même pas être en vue sur Terre. Et donc, 11 ans de guerre, 11 ans d'embargo, des milliers de morts et de blessés. Et je te dis tout ça à toi et à tous les gens qui écoutent ta radio. Je ne le dis pas en restant à Paris, je passe beaucoup de temps en Syrie, de sud au nord, et je traverse toute la Syrie pour parler, pour agir, pour aider les gens. Ouais. Donc aujourd'hui, avec en plus de tout ça, c'est Allah qui frappe, c'est le tremblement de terre qui fait plus d'un millier de morts, monsieur, et plus de 6000 blessés.
Absolument. Monsieur, justement, monsieur l'écrivain, vous, Adnan Azam, vous parliez du chef de l'État, Emmanuel Macron. Il a tweeté, hein, il a fait un tweet où il dit « Des images terribles, nous viennent de Turquie et de Syrie, après un tremblement de terre d'une force inédite. » Il dit « La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place. Nos pensées vont aux familles endeuillées. » Ma question est la suivante. Que s'est-il passé? Damas demande l'aide de la communauté internationale. Que s'est-il passé? Quel est le bilan provisoire? C'est 2300 morts, il me semble, alors où on se parle.
Le bilan provisoire, ça dépend. Moi, je suis en contact avec le ministère des Affaires sociales qui gère vraiment ce terrible tremblement de terre.
Vous avez le dernier bilan provisoire?
Absolument, et il donne à peu près 2600 morts et plus de 6000 blessés.
Ah, c'est terrible, effectivement.
Il y a deux, trois petites villes qui sont complètement rasées. Complètement rasé. Je peux te confirmer que de sud de la région de Souaïda, qui est à la frontière de la Jordanie, jusqu'à la région d'Alep, qui est à la frontière de la Turquie, c'est-à-dire il y a 600 kilomètres, pas une région épargnée. Même Damas. Les habitants de Damas, hier soir, ils ont quitté leurs appartements et sont partis sur l'autoroute qui est juste à côté de Damas, parce que sur l'autoroute, il n'y a pas beaucoup de risques des immeubles qui se fondent sur leur tête. Donc voilà, si tu veux, le bilan. Maintenant, on revient aux choses concrètes. Aujourd'hui, c'est une chance historique pour M. Macron de prouver son humanisme, d'envoyer un aide à Damas, à tourner la page.
Il a tweeté, je lis en face de mes yeux.
Et moi, j'ai fait un appel à un monsieur qui s'appelle Nasser Kattan, qui est aujourd'hui champion de francophonie, champion de Union pour la Méditerranée, champion de tout ce qui est rapport entre l'Orient et l'Occident, ou le Sud et le Nord, de faire de pression à ses amis qui sont proches de président de la République pour qu'on parte de demain matin à Damas avec vraiment des aides concrètes, mais au-delà de l'aide qu'on va apporter, c'est-à-dire tourner la page, reprendre le chemin de Damas. Parce que ça ne se fait pas. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas la Syrie, qui est la mère de toutes les civilisations. Damas et Alep, ce sont les premières capitales du monde. On ne peut pas rester comme ça, ignorant ce trésor de notre foi chrétienne, comme ils disent les chrétiens, oui. ou de notre foi musulmane, parce que la première étape musulmane, c'est les Umayyades qui ont commencé à Damas. Donc, contenir à larguer la Syrie et le peuple syrien, ce n'est pas une bonne politique.
Dites-moi, Adnan Azam, c'est bien le séisme le plus important, le plus fort séisme depuis plus de 20 ans maintenant?
Non, depuis 70 ans. C'est absolument, depuis 70 ans. Ça a atteint 7,8. Je ne suis pas expert en matière de Richter, mais ce que je lis sur l'Agence nationale de la presse syrienne Sana, c'est 7,8 et c'est la plus forte depuis 70 ans.
Vous avez eu vos contacts sur place, vous avez eu que, avec votre réseau, puisque vous connaissez bien, vous, la Syrie, avec les hauts fonctionnaires, etc. Avec qui vous avez échangé quelles sont les informations qu'on vous fait remonter, mon cher Adnan?
Aujourd'hui, toute la classe politique en Syrie, préoccupée par venir au soutien des citoyens qui sont complètement... C'est-à-dire, si on regarde les vidéos qui m'ont envoyé de là-bas, le cri des enfants sous les encombres des bâtiments en ruine, ça fait vraiment, ça arrache le cœur. Mmh. Aujourd'hui, tous les hommes politiques avec lesquels je communique là-bas sur place, ils veulent un soutien international. C'est à la fois côté matériel...
Emmanuel Macron, le chef de l'État qui est français, justement, qui envoie une trentaine de pompiers, une centaine de secouristes français qui sont en partance là, hein, d'ailleurs. Est-ce que c'est suffisant?
Je pense qu'il faut beaucoup plus que ça. Il faut beaucoup plus que ça. Et moi, j'attends aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement associatif en France. Le mouvement associatif, le mouvement... Tous les hommes,
écoutez,
bonne volonté...
Les ceux qui vous écoutent, oui.
Absolument, de se réunir. Moi, je suis en train de préparer un communiqué que tu vas recevoir une copie dans quelques minutes, juste après cette interview. Et puis, je l'envoie à l'agence France Presse. Je vais l'envoyer partout en laissant un numéro de téléphone et une adresse e-mail pour qu'on puisse réellement organiser quelque chose de concret, quelque chose d'important, pour qu'on puisse sentir et donner l'impression qu'on existe, que la Syrie existe, que le peuple syrien existe pour nous tous.
C'est le moment, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement. Quel appel vous lancez à celles et ceux qui vous écoutent partout en France? Qu'est-ce que vous leur lancez comme principal message, Adnan Azam, vous, écrivain franco-syrien?
Il y a un proverbe qui dit, pour chaque être humain, il a un pays, il a son pays, et un deuxième pays qui est la Syrie. Il faut absolument se rappeler de ce deuxième pays aujourd'hui, et surtout le français, parce que depuis le roi François Ier, des très bonnes relations culturelles entre la France et la Syrie. Le centre culturel français à Damas, c'est le plus ancien dans toute la ville d'Orient. Oui, aujourd'hui, je dis à mes amis français, à tous les Français qui écoutent, à tous les franco-maghrébins qui écoutent, aidez la Syrie, portez vraiment votre contribution, apportez votre contribution à l'aide du peuple syrien qui attend un main tendue de votre part.
Merci Adnan Azam, vous êtes écrivain franco-syrien. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct pour parler de ce séisme, évidemment.
Merci, et puis ce tremblement. Merci à toi, cher Adil, et à très bientôt.
À très bientôt, nous marquons une pause et on se retrouve tout de suite après avec vous, notamment 01 53 48 3000. Vous le savez, nous allons évidemment ouvrir les différents sujets qui nous concernent avec notamment, tiens, Darmanin millionnaire. Quand vous entendez ça, évidemment, Mélenchon millionnaire, mais moi je ne le suis pas. Ça fait réagir quand même, hein. 01 53 48 3000, comment vous réagissez-vous? À tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés de 18h-18, si vous venez de le retrouver, sachez-le, le standard est ouvert, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et je veux vous entendre, chers amis, partout en France. Vous venez commenter, donner votre point de vue. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dit qu'a fait une déclaration qui a fait beaucoup polémique. Alors, elle a fait polémique, elle a fait beaucoup réagir. On a retrouvé, tiens, Anthony, si tu veux bien le retrouver, c'était à RTL chez nos confrères. Il avait donc justement lâché ça. Mélenchon est millionnaire, moi je ne le suis pas millionnaire. Est-ce qu'il se sentait obligé de le rappeler, ça, de dire lui il est millionnaire, moi je ne le suis pas, etc. C'était quoi l'idée derrière ça, tiens? Qu'est-ce qui vous exaspère, Jean-Pierre Colombiès, tiens?
Bonsoir Adil et bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices, qu'il ne faut certainement pas oublier. Ça m'inspire une réflexion de cours d'école. Il nous a déjà fait le coup.
C'est bizarre de dire ça.
Non, mais c'est du Darmanin. c'est du Darmanin. Il a toujours. Alors, moi, je suis assez admiratif de ce monsieur qui a toujours le chic.
Quand même, vous voulez faire quoi, référence à l'hypocrisie?
Ouais.
C'est ça, l'hypocrisie.
Il a aucune vergogne. Il vous annonce des choses terribles.
C'était pour pointer l'hypocrisie de Mélenchon.
Mais la sienne.
Enfin, je pose la question. Non, c'est ce qu'il voulait.
Oui, mais à quoi ça voulait pointer À quoi on joue là À quoi on joue Aller chercher les millionnaires de droite et de gauche. Alors, faut pas qu'ils discutent avec les LR, surtout pas.
Ouais, parce que bah, je vais ouvrir l'antenne. Je vais solliciter nos auditeurs.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Parce que du coup, ça a lancé des tensions entre la NUPES et le gouvernement qui se sont envenimés.
Ils se nourrissent de ça.
Mais sérieux, ça s'est envenimé de jour en jour à cause de ces histoires-là.
Non, il a déjà eu l'indécence de citer sa maman, pour laquelle j'ai le plus grand respect, en nous disant qu'elle allait prendre sa retraite à 67 ans. À 67 ans, c'est marrant parce que ce monsieur qui est quand même ministre depuis un petit moment, qui a multiplié les postes d'envergure, très bien rémunéré, n'a pas trouvé les moyens d'aider sa mère qui fait des ménages. Quoi. Moi, je lance ça comme ça. Je suppose qu'à l'antenne, il y a peut-être des gens qui savent à peu près de quoi on parle, parce que femme de ménage...
Vous avez raison, c'est vrai, là-dessus. Ouais. En parlant de femme de ménage, sa mère était femme de ménage, et beaucoup s'interrogent, mais pourquoi il ne l'a pas aidée? Tiens, là aussi, je voudrais vous entendre, 01 53 48 3000. Fatima, bonsoir Fatima, vous nous appelez de Paris. Bonsoir Fatima.
Allô?
Oui, Fatima. Bonsoir, bonjour. Comment ça va? Vous allez bien?
Alhamdulillah, bonjour à toi et à tes invités. Tes émissions sont toujours top. Je voudrais dire, je suis de tout cœur avec la Syrie. J'ai beaucoup de peine pour eux et j'espère qu'ils auront beaucoup d'aide, en particulier de l'Algérie.
On leur souhaite, effectivement. Ils en ont besoin. Vous avez entendu.
Ils en ont besoin.
Vous avez entendu, il a lancé un appel tout à l'heure.
Je reviens à ce qu'a dit Darmanin.
Oui.
Je crois que c'est Coluche qui a dit certains votent à droite et votent à gauche et roulent à droite. Je pense que c'est Coluche.
Ce
qu'a dit Darmanin n'est pas la faux. Hein.
Oui.
Il faut voir avec les socialistes, les machins, ils sont tous bien friqués, donc ils n'ont pas à se plaindre.
Oui.
Et pourquoi ça va le vexer ou le contrarier? C'est la vérité, ils sont tous millionnaires.
Ouais, bon.
Hein, ils sont bien logés, ils sont bien payés, bien mangés, bien bu, le ventre bien gonflé. Merci Jésus.
C'est
pas ça, Adil
Jean-Pierre. Attendez, vous répond Jean-Pierre Colombiès.
Bonsoir Fatima.
Attendez, j'entends très mal. Voilà, j'arrive là.
Oui,
c'est Jean-Pierre.
Bon, je vous disais bonsoir Fatima d'abord.
Bonsoir messieurs.
Voilà, et on attend. Je comprends ce que vous venez de dire, hein, je comprends tout à fait ce que vous venez de dire, mais je trouve.
Vous comprenez, parce que moi j'en connais quelques-uns.
Oui, mais on en connaît tous, vous savez. Mais toutefois, on attend autre chose d'un ministre, très chère madame. On attend bien d'autres choses d'un ministre que de se laisser aller à des querelles de portefeuille. D'aller chercher. Oui, Mélenchon, et on sait très bien que Mélenchon a un passé quand même d'homme politique professionnel.
Mais quand il donne des leçons à tout le monde,
Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça, pour moi, dans la période actuelle, la période que nous traversons, la période du débat sur les retraites, la guerre en Ukraine, dans laquelle d'ailleurs nous entraîne Emmanuel Macron sans qu'il y ait le moindre débat à l'Assemblée nationale, je pense que quand on est dans une période de crise comme celle-ci, crise morale, crise internationale, on a autre chose à dire que d'aller chercher, d'aller fouiller dans les portefeuilles des uns des autres. Il faut un peu plus de hauteur de débat.
Bon, Fatima, merci en tout cas pour votre intervention.
Merci beaucoup Adil, bonne soirée à vous tous.
Merci 01 53 48 3000. 01 53 48 3000, je vous attends. Venez justement participer au standard dans le cadre de ces émissions. L'antenne est ouverte et c'est pour vous d'ailleurs, avec les déclarations de Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, notamment en faisant référence au patrimoine de Jean-Luc Mélenchon, où il dit qu'il est millionnaire et moi je ne le suis pas, j'ai pas de patrimoine et je ne suis pas millionnaire. Jean-Pierre Colombier.
On dirait qu'il veut marcher dans les pas de
d'autres pensent le contraire.
Oui, mais il nous fait du Sandrine Rousseau là, il envoie des punchline, il fait référence à ce qu'a dit la nouvelle secrétaire générale d'écologie Les Verts quand elle dit qu'elle veut plus de milliardaires, et lui il me dit moi je suis pas millionnaire. Bon, ça veut nous dire quoi? Ça veut dire qu'il est misérable?
Anthony, notre réalisateur a retrouvé l'extrait. Ça se passe chez nos confrères, chez nos amis RTL. Voilà, RTL, je cherchais. Écoutez.
La famille de M. Mélenchon, il a un patrimoine, il est millionnaire. Je suis très heureux pour lui parce que moi je suis pas jaloux, moi je suis pas millionnaire et j'ai pas de patrimoine. Mais je veux dire que ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail et du mérite et de l'effort. Et peut-être que ça me donne une petite façon de leur dire arrêtez votre hypocrisie, arrêtez parce que ça se voit trop. Et je pense que...
Oh là 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 là, qu'est-ce que vous dites Philippe Nedjiboyaki?
Je dis la
carrière. Bonsoir.
Bonsoir.
Il a carrément raison.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Bonsoir Jean-Pierre. mais bien sûr, il a carrément raison. Ouais. On a Jean-Luc Mélenchon qui vient nous donner des leçons, qui vient parler à la place des pauvres. On les comprend. Mais il ne comprend rien du tout. Il n'a jamais travaillé. Enfin, si, il a travaillé.
Très peu, il était éditorialiste.
Alors bon, je ne suis pas là pour dénigrer ce que c'est un travail, etc. Moi, un travail, je pense, c'est quand tu vas aller casser des cailloux à passer à 6 heures du matin et que tu as quelqu'un qui t'hurle sur les oreilles du matin au soir et que tu ne peux pas faire autrement. Parce que tu as toute une famille à nourrir. Et tu ne pratiques pas bien la langue et que tu n'as pas de diplôme, donc tu es obligé de la fermer et de subir. C'est ça un travail, c'est un élément de torture de base, un travail. Quand il va en sifflotant, c'est plus un travail, c'est un plaisir, c'est un loisir, et tant mieux. Ça serait super que tout le monde puisse vivre dans ces conditions-là. Mais qui vient donner des leçons, alors que ce monsieur est millionnaire, et tant mieux pour lui, et je rejoins Gérald Darmanin là-dessus, mais qui vient pas parler à notre place, qui vient pas nous dire on comprend, on se bat pour vous. Eh ben moi je propose à tous les députés de la France insoumise ici là sur ton antenne, je les mets au défi.
Je les mets au défi
de faire la même chose que j'ai fait moi, parce que moi je l'ai dit et je l'ai
mais
fait.
Mais je veux entendre les auditeurs justement, moi, au 0153483000.
Je l'avais dit sur ton antenne, certains sont intervenus en disant que j'étais un démago. C'est de rendre complètement transparent leurs indemnités, leur salaire qui est à côté, et de reverser la moitié de leur indemnité après la déduction de leurs frais. Et là on verra. Là on pourra dire ces gens-là, ils y vont pas.
Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée la proposition de notre conseiller régional Philippe Nadji-Bouriaki, 0153 48 3000? Est-ce que c'est une bonne idée, justement, sa proposition, Jean-Pierre Colombiès?
De mémoire, je crois que c'était ce que faisaient les députés communistes un temps, ce qui reversait une partie de leur indemnité.
Non, les députés communistes reversaient toute leur indemnité au parti. C'est le parti qui leur faisait un salaire, etc. C'était à l'époque. Maintenant, c'est fini.
C'était un autre temps. C'était avant.
Maintenant, ils se sont dit, tiens, les socialistes, ils font un truc ça.
C'était Rocard, non?
Rocard n'était pas communiste. Il était PS.
Mais c'était à l'époque de Rocard.
Oui, à l'époque de Rocard.
Je sais bien que Rocard n'est pas communiste.
Non, mais c'est vrai que
c'est sympa. Je disais que c'était à l'époque de Rocard.
Non, mais voilà, à l'époque, tu ne pouvais pas faire cette grille.
Oui, mais très cher Philippe, moi je comprends tout à fait ça, qu'effectivement, les données de leçons me donnent de l'urticaire. Mais ils en donnent tous des leçons. Et lui, le premier, hein, quand il nous fait tout son grand scénario sur les gentils, les méchants, enfin, je veux dire, on est dans la démagogie la plus totale.
Priorité aux auditeurs, Marouane de Montpellier. Bonsoir, Marouane. Marouane, bienvenue, bonsoir, vous nous appelez de Montpellier.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, bienvenue.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire.
Avec Philippe Nadji-Bouriaki.
Qu'ils abandonnent leur retraite et on verra s'ils travaillent pour nous.
Ah là 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 là. C'est vrai, vous êtes d'accord avec ça ou
le régime de retraite des députés a déjà été révisé.
Ouais, maintenant
c'est le Sénat qui n'a pas été révisé.
Alors avant qu'il soit révisé, c'était à chaque fois que tu faisais un mandat, tu touchais 1 500 € dès que tu arrives à l'âge de la retraite. Tu fais 3 mandats, c'est 4 500. D'ailleurs, c'est toujours valable pour les eurodéputés. Petite dédicace à mon pote Mounir Satouri, c'est quand tu veux pour rendre la transparence, ça me ferait bien plaisir.
Oui, parce que là au niveau des députés européens, il y aurait beaucoup à dire. Ouais. Parce
que... Mais par contre, maintenant les députés français, c'est 400 € par mandat qu'ils font. Voilà. Mais ils peuvent faire comme je fais d'ailleurs. Moi, je cotise à un truc qui s'appelle la CAREL. Tous les mois, c'est à 8% de mes indemnités. Je mets 217 €. La région met 217 €. À la fin, je toucherai un pécule de 40 000 € et je ne serai imposé que sur 20 000 €. Mais moi, je l'ai rendu public dès le départ. Et je le dis chaque mois, chaque début de mois. Je rends tout ça public. Et la moitié de ce qui reste, moi, je me fais un salaire, je crois, entre 500 et 600 € sur les 2 000 € que je perçois en tant que conseiller régional. Et je considère que c'est de l'argent public. Je suis sur le modèle scandinave. On doit rendre transparent. Et je mets tous les tickets de carte bleue quand j'étais au restaurant, etc.
Marouane, c'est une bonne idée, ça? Faudrait que tout le monde montre l'exemple?
Exactement.
Vous êtes pour, vous, oui, effectivement, cette transparence?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire.
Il faut nous rejoindre à l'écologie au centre, Marouane.
Merci Marouane.
Allez, bonne soirée tout le monde.
Bonne soirée, 0153 48 3000. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition que propose Philippe Nadji-Bouriaki, le conseiller régional, qui dit voilà.
Et je dis qu'ils reversent la moitié après déduction de leurs frais. Parce que moi, à chaque fois que je vais au restaurant avec quelqu'un, que ce soit avec un pote ou que ce soit avec quelqu'un du milieu associatif, etc., cette indemnité est faite pour ça, pour payer et pour surtout éviter qu'un jour on me dise ouais, mais t'es intervenu sur tel dossier, mais parce que en vérité, tu vas de temps en temps manger avec lui et c'est lui qui paye. Pour éviter toute histoire de corruption ou de tentative de corruption ou de suspicion de corruption, c'est cette indemnité. Et donc, je rends transparent, je mets l'étiquette carte bleue quand je paye le parking, quand je paye l'essence. Ce mois-ci, j'ai beaucoup dû rouler pour un écologiste. Je sais que c'est à peu près inconcevable, mais
Faut bien se dépasser quand même.
Si vous me suivez sur les réseaux, vous vous rendez compte, dans une journée, je fais pas mal de choses et je ne peux pas, malheureusement, parce que je suis agoraphobe dans les transports en commun, sauf les transports en commun de longue distance, parce que je prends des médicaments pour être un petit peu zen, etc. Mais donc je rends tout transparent. Et ce qui reste, s'il reste 100 euros, ben on ferait 50 euros chacun. S'il reste 200 euros, ainsi de suite. Là, ce mois-ci, j'ai donné 500 euros à une coopérative d'école. Là, j'ai encore été sollicité pour une école qui n'arrive pas à avoir des bouquins via la municipalité. Donc je, voilà. Et ce qui reste, chaque mois, la moitié pour moi et la moitié pour alors j'évite de faire un maximum de frais pour pouvoir
Laisse le soin,
mais je travaille à côté, je tiens à le dire. Il y a des élus qui ne travaillent pas et donc ils sont à 100% de leur job,
et je laisse le soin aux auditeurs de répondre justement et de venir voir ce qu'ils en pensent au 01 53 48 3000. On les prend tout de suite, c'est le quoi de neuf,
les informés. Le quoi de neuf.
Et le quoi de neuf, comme chaque lundi, vous le savez, c'est avec Franck Serfati, avocat. Bonjour maître Serfati, comment allez-vous?
Super, mon ami.
Alors, j'ai suivi vos performances, bravo. Marathonien, 10 kilomètres.
Ouais, 10 kilomètres avec une petite performance, en tout cas personnelle, très modeste, voilà. Mais
bravo.
Une amélioration, comme quoi le travail intellectuel, mais aussi physique et sportif, finit toujours par payer.
Bravo. On vous écoute pour votre billet d'humeur, évidemment, et le quoi de neuf.
L'animal est un être humain? Bien sûr que non, l'animal par définition n'est pas un être humain, mais pour autant, dans le droit français actuel et d'ailleurs dans le droit occidental, la chose animalière, hein, puisque l'animal était considéré comme une chose dans l'ancien droit, l'animal, l'être vivant animal, tend à avoir de plus en plus de droits sans être doté de la personnalité juridique. La personnalité juridique étant la capacité pour un sujet de droit, un être humain, non pas un être vivant, mais un être humain, d'être titulaire de droit et en contrepartie redevable de certaines obligations juridiques. Donc aujourd'hui, en droit positif français, l'animal n'est pas doté de la personnalité juridique, c'est-à-dire de ses capacités à jouir de droit et en contrepartie être débiteur d'obligations. Pour autant, l'animal bénéficie d'une certaine protection juridique depuis plusieurs années, et aujourd'hui au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, il est question d'accroître la protection de ces animaux. Alors, je parle de cette question non pas pour faire du droit de façon spéculative et théorique, mais tout simplement parce que ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, on assiste à des violences inhumaines, sans faire un vilain jeu de mots, au préjudice d'animaux. Et le législateur a décidé d'accroître la protection, puisque les violences sur les animaux sont passibles aujourd'hui de sanctions pénales. C'est dire que l'animal n'est plus une chose sans aucune protection, comme avant, à suivre, et on verra l'évolution législative dans les mois à venir.
Eh bien, merci pour ce billet d'humeur. La semaine, comment s'annonce-t-elle, mon cher maître?
Très très bien, écoutez, alors la conjoncture en France, en Europe et dans le monde n'est pas toujours très réjouissante, mais je crois qu'on a le devoir, et vous le dites souvent, de voir les choses de façon positive, et on avance avec optimisme.
Merci mon cher maître Franck Serfati, à lundi prochain sans faute, 18h32, bonne soirée, à très bientôt lundi prochain sans faute, 18h32, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après, 01 53 48 3000, vous pouvez vous continuer de nous appeler au standard, le standard reste ouvert évidemment, mais dans une poignée de minutes c'est aussi également le quoi de neuf, le face à face pardon.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h37 précisément, 01 53 48 3000, le standard reste toujours ouvert bien sûr pour répondre à cette question, notamment, vous savez, est-ce que c'est au ministre de l'Intérieur de faire ses comparaisons? Évidemment, je sais bien que là il va titiller un peu l'exécutif, mais est-ce que c'est son rôle, y compris, vous savez quoi, de faire des comparaisons avec Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon? Oui, mais lui il est millionnaire, il a un patrimoine, moi j'ai pas de patrimoine, je ne suis pas millionnaire. Est-ce que c'est son rôle, évidemment? Parlons-en, 01 53 48 3000, on vous attend, Anthony vous attend, le jingle tout de suite.
Les informés, le face-à-face.
Tout de suite, c'est parti, vous savez quoi, avec nos débatteurs influenceurs qui n'attendent qu'une seule chose, je peux vous le dire. Dès qu'ils mettent le pied dans le studio, ils sont prêts. Nabil Etakache, le représentant du 9-3, comment ça va? De Renaissance.
Très bien, et vous?
Comment se porte le département?
Très bien, écoutez, ça va, on essaie de...
Vous m'avez bien en pleine forme. Tournez bien le micro vers vous.
On essaie de désintoxiquer.
Tournez-le vraiment. Ouais, voilà. Désintoxiquer quoi?
Désintoxiquer, parce qu'il y a quand même beaucoup de contre-vérités, de fake news.
Ah oui, j'ai eu peur. Ouais.
Voilà, c'est pas évident. Hein.
Non, c'est pas
évident. Met dans la tête des gens des idées fausses et repasser derrière, c'est pas facile.
Bon, on en reparlera justement. Notre conseiller régional.
Au centre.
Ouais, l'écologie au centre, absolument.
C'est ça.
C'est Philippe Nadji-Boyer qui, comment ça va?
Ça va très très bien.
Avec son pins.
Quand on rentre, ouais, non, j'ai beaucoup de fierté à mettre ce pins. Des fois, on me dit, ouais, mais tu te la racontes. Je dis, non, c'est pas ça. C'est la France m'a fait de moi un élu de la République et c'est un beau pied de nez à tous celles et tous ceux. Parce que je suis porteur d'un handicap, comme 80% des Français qui ont un handicap, le mien ne se voit pas. Je suis dyslexique et dysorthographique. Et à l'époque, à l'école, on m'a appris qu'une chose, c'était que je ne pourrais rien faire de ma vie. Et aujourd'hui, c'est une belle revanche sur celles et ceux.
Mais souvent, les dyslexiques, ils se vengent. Hein.
C'est le plus...
Moi, j'en connais un paquet qui ont réussi. Hein, qui ont... Non, mais c'est vrai, ils ont la niaque.
La niaque. On travaille 10 fois plus que les autres. Et tu as raison. Dès qu'on franchit la porte de Beurre FM, ça y est, on prend notre.
Non, j'ai vu, j'ai remarqué. Vous savez que je ne vous observe pas.
Attention,
en tant que journaliste, je serve tout à tout. Vous croyez que je suis dans mon truc, mon univers. Je vous observe. Il y en a un autre, d'ailleurs. Dès qu'il bouillonne, je vous promets, il bouillonne à chaque fois qu'il vient ici. Et il franchit la porte, il s'appelle Jean-Pierre Colombier. Lui, il attend qu'une seule chose, c'est quoi? C'est d'en découdre avec le micro. C'est vrai, non?
Ouais, le micro, ça va.
Vous aimez la radio, hein?
J'aime l'échange, j'aime le dialogue.
Ouais, j'aime la
vérité.
Vous aimez les gens de Renaissance, aussi?
Ouais. Il lance une chance.
J'ai vu.
On en parlait, là, justement, sur la réforme.
Ancien commandant de la police, porte-parole des policiers indépendants.
Ouais, justement, mais également aussi comédien. La parole de l'institutionnel, qui d'ailleurs. Ça pourra être un sujet qu'on évoquera ensuite.
Oui, on va l'évoquer.
Se diffuse de plus en plus.
Ce sera cette semaine.
Tout à fait, se diffuse de plus en plus, parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de policiers de terrain commencent à s'exprimer sur la réalité de l'institution en son intérieur et pas simplement au travers des discours syndicaux ou politiques, encore moins politiques.
Eh bien, messieurs, tout de suite, nous allons lancer ce premier sujet, c'est la réforme des retraites. Les débats s'ouvrent, vous savez quoi? Pour quelques semaines, 2 semaines précisément, mais surtout ces débats, certains considèrent qu'ils ont du mal à démarrer. Combien, justement? Est-ce que cela, d'ailleurs, je voudrais qu'on mette les pieds dans le plat, tout de suite, là maintenant, avec Elisabeth Borne, a-t-elle évidemment ouvert le débat en se disant, j'ai tendu l'oreille, je vous ai compris, on a vu la une du JDD, je vous ai entendu, la une du JDD, et qu'est-ce qu'on peut dire évidemment de tout ça? Ou alors, est-ce que c'est des discussions qu'elle a avec les Républicains pour obtenir la majorité? Jean-Pierre Colombier.
Moi, ça me paraît totalement évident. Elle drague à droite pour une raison simple, c'est que la réforme des retraites était déjà dans le panier électoral de LR, avant de l'UMP. Mmh. Donc, quelque part, elle a besoin de ce soutien. Et j'ai presque envie de vous dire que l'UMP est à vendre et qu'ils seront bien
l'UMP
contents.
Est à vendre.
Je rappelle quand même que Emmanuel Macron a constitué son état-major de force avec des anciens LR.
C'est vrai.
Édouard
Philippe. Est-ce qu'elle fait vraiment des concessions?
Non, c'est pas des concessions, c'est simplement pour faire. Je crois pas que ce soit à la droite républicaine que ça s'adresse, à 63 ans. C'est plus pour tenter de calmer l'opinion. Mais je veux dire, la cause est entendue. L'opinion est contre le projet. Donc il ne lui reste plus qu'à se rallier les voix des LR pour constituer une majorité parlementaire. C'est clair et net. C'est clair comme de l'eau de roche. Et quand j'entends, alors ça fait partie du même sujet pour moi, hein, quand Aurore Berger, puisque ça faisait partie des thèmes de cette émission de ce soir, quand Aurore Berger dit oui, il faut arrêter la démagogie à droite. Mais c'est le même problème. C'est le même sort. C'est-à-dire qu'on veut surtout gagner ceux qui sont un peu hésitants et qui, par démagogie, veulent se rallier sans se rallier.
Philippe Nadji-Boyaki. Alors,
il met une politique.
Je veux comprenne le temps d'en parler parce que c'est important. Il y a un enjeu là, majeur.
Ouais. Alors, je trouve qu'il était un petit peu assez timide et d'ailleurs qu'il est à saute-mouton puisque dans 3 ans nous devrons y revenir. Et je vous dirai ce que nous proposons à l'écologie au centre. Mmh. Ils ont de toute façon, comme tu l'as dit, l'état-major. Alors le gros des troupes vient des sociaux-libéraux qui étaient plutôt strauss-kahniens. Ils ont fait des beaux coups de hold-up. On pense à Castaner, Griveaux, etc.
Que je qualifie pas d'homme de gauche du reste.
Et même Attal. Ouais, mais bon, ça. En tout cas, ils étaient au Parti Socialiste et on leur a dit attendez votre tour, vous pouvez attendre 20 ans avant d'être élu. Ils ont vu un cheval de course fougueux qui s'appelait Emmanuel Macron qui était soutenu par.
Ou un cheval de Troie, suivant comment on se considère.
Non, on peut pas dire cheval de Troie de Macron parce que, en tout cas, il a une qualité. Il a toujours dit ce qu'il ferait et il n'a pris personne à défaut.
Ça, c'est
on l'aime
vrai.
Ou qu'on l'aime pas là-dessus.
Ah, ça, c'est vrai.
Moi, je suis admiratif des gens qui sont francs du collier. Moi, Sarkozy, c'était pas ma tasse de thé, mais il était franc du collier. Darmanin, de plus en plus, je me dis, je retrouve quelque chose que j'ai, qui est de dire la vérité, ça plaît ou ça plaît pas. C'est sûr, tu te fais plus d'ennemis, ça c'est clair, c'est sûr d'être déprécis. Mais au moins, tu peux pas prendre, tu prends pas les gens en traître. Là où je disais, c'est du saut de mouton, c'est que dans 3 ans, on sait qu'on devra y revenir. Et nous, à l'école du centre, on part d'un constat très simple. Nous faisons cette proposition, et c'est dommage, ils nous ont complètement balayé au niveau du CNR. Oui. Ils préfèrent parler avec des écologistes fermés et plutôt proches de la France insoumise que ceux et celles qui sont ouverts d'esprit à l'écologie au centre. C'est de dire, nous, on veut que les pensions, enfin que l'indexation des cotisations que nous payons pour nos retraites passe de 28 à 22%. Donc, on redonne 6 points, ça fait 1 750 € par an de pouvoir d'achat aux Français. Mais par contre, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait 2/3 de répartition et 1/3 de capitalisation. Et attention, quand on dit capitalisation, la droite, je la trouve hyper timorée, et Macron aussi, là-dessus. Parce que, en vérité, aujourd'hui, quand on dit capitalisation, tout le monde pense au fonds de pension américain, au BlackRock, etc. Et nous voulons un fonds de pension français, souverain, européen, qui investit dans l'économie française. Et aujourd'hui, le taux d'intérêt des fonds de pension, c'est 8%. 8%, ça n'existe nulle part autre part. Et donc, faire 2/3, 1/3, c'est un petit peu le système danois. Et aujourd'hui, les Danois, quand ils sont à la retraite, ils touchent le même salaire que quand ils étaient en retraite. Donc, je dis, c'est un saut de mouton. Dans 3 ans, nous nous retrouvons dans la même configuration.
La même configuration. Bon, Nabil Itakash, vous dites quoi?
Alors,
elle a bougé, elle n'a pas bougé, elle a fait des concessions.
Alors, je ne sais pas si je dois répondre.
Elle parle au LR.
Sur la réforme. Sur la réforme. Là, l'enjeu, c'est de réformer quand même notre système de retraite par répartition. Donc là, vous parlez d'autre chose, c'est de la prospective pour, alors je ne sais pas quand, mais là, nous, notre système en France, c'est la répartition basée sur la solidarité intergénérationnelle. Donc c'est très important pour nous et on veille à ce que ce système de retraite soit équilibré. Est-ce qu'elle a bougé? Est-ce que la Première ministre, vous posez la question de savoir si elle a bougé? Il y a eu plusieurs étapes quand même. On est passé de 65
à 64. En tout cas, il y a plusieurs scénarios.
Alors, avant d'arriver à cette proposition, on est quand même passé de 65 ans à 64 ans. Ensuite, on a fait en sorte que les
64, 63, c'est possible maintenant?
Écoutez, je pense pas. Je pense que l'âge, concrètement, il faut dire la vérité. Moi, vous parliez de dire la vérité aux gens. Si on ne mettait pas une mesure d'âge légal de départ, il faudrait en fait, si on se basait simplement sur les annuités, il faudrait 45 ans en fait d'annuité pour que notre système soit équilibré, pour pouvoir continuer à payer les pensions et pour pas les baisser, enfin faire perdre du pouvoir d'achat. Donc, ce que l'ouverture de la Première ministre qui a été demandée par les LR, elle s'inscrit simplement, encore une fois, dans un dialogue qui a commencé au mois de juillet. Mmh. Et on est revenu encore une fois. Les pensions aussi pour les
Nabil, excuse-moi de t'interrompre.
Philippe Djibouaké. Non, mais justement, je veux qu'on en parle.
C'est pour ça que je voulais vraiment, amicalement, je le dis. C'est pour ça que je dis, on est à saut de mouton. On parle de sauver le système de répartition. Mais il est mort, le système de répartition. Pour un principe très simple, démographique. Quand on l'a mis en place, il y avait 4 actifs pour un retraité. Mmh. Aujourd'hui, c'est 1,7 actifs.
4,5 précisément.
Il faut pas s'arrêter là-dessus. Donc 1,7.
Il a raison. Il faut s'arrêter là-dessus. Aujourd'hui, c'est 1,7.
Pour un retraité. Et avant 2050, ça sera 1,2 pour un retraité. C'est pas possible. À moins qu'on demande aux actifs de verser la moitié de leur salaire, c'est pas possible autrement. Levons les tabous et parlons. Nabil Itakash,
ensuite après-midi.
Nabil Itakash. Je vous entends sur ce point-là. Mais voilà, notre modèle social, c'est le système par répartition. On n'est pas aux États-Unis.
Faites-le évoluer.
Sur la capitalisation. Alors, il y a. Les Français le font aussi par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mesures incitatives.
La capitalisation, tout le monde l'a.
Il y a beaucoup de mesures incitatives.
Bien sûr que si.
Mais non, bien sûr que non.
Mais bien sûr que si. Tu choisis le fonds de placement si c'est sur des énergies renouvelables, si c'est pour les industries. Non, mais en plus, je vais aller même encore plus loin. C'est dommage. S'il y a quelqu'un de la CGT, de la Banque de France CGT. Mais si, alors justement, Banque de France CGT et FO. Lorsqu'on a voulu modifier.
Ah, si un syndicaliste qui nous écoute ce soir.
Lorsqu'on a voulu modifier leur système de retraite, il faut savoir.
0,153,483,000.
Que les salariés de la Banque de France, il y a une partie par répartition et une autre partie par capitalisation. Qui est monté au créneau? Les syndicats CGT et FO de la Banque de France qui ont dit surtout, vous ne touchez pas cette partie.
Mais elle vous répond, Elisabeth Borne. Elle dit si vous avez commencé à travailler entre 20 et 21, vous pourrez partir plus tôt.
Et pour combien?
Alors, à partir de 2030, c'est 600 millions à 1 milliard d'euros par an.
C'est ça, oui, 600 millions.
Il faut le financer. Comment?
Le déficit.
Ça concernera 30 000 personnes par an.
30 000 personnes par an seulement. Donc, on voit aussi les marges de manœuvre. C'est-à-dire que vous voulez toucher 30 000 personnes par an, ça coûte 600 millions à 1 milliard d'euros. Donc c'est, oui, c'est, il faut l'entendre tout ça.
Non mais oui, d'accord, mais il y a autre chose qu'il faut entendre.
Jean-Pierre Colombier, c'est ensuite Mehdi Djezzeri qui vient d'arriver en plateau.
Il y a un truc qu'il faut entendre quand même, c'est que les gens l'entendent pas justement ce que vous dites. Là, ce que vous dites, ce débat ultra technique.
Ils ont été beaucoup intoxiqués.
Mais pas seulement. Il faut entendre l'épuisement aussi des Français qui sont en pleine période de crise profonde depuis plus de 3 ans et qui avaient vraiment pas besoin de ça. Et c'est même pas moi qui le dis. On va pas encore paraphraser parce qu'on le fait sans cesse. Les phrases même du président qui disait, ce serait inhumain de prolonger l'âge de retraite aujourd'hui pour mille et
une. Inhumain.
Bon, il a dit autre chose.
Voilà. Non, mais
irresponsable.
Sans toucher.
Anthony va essayer de nous retrouver.
Sans toucher au travail des seniors.
Il avait dit sans régler le problème.
Il ne voulait
pas
bouger.
Sans régler le problème.
Est-ce qu'il l'a réglé? Est-ce qu'il l'a réglé? Il faut redire tout ce qui a été dit, c'est sans toucher au problème de l'emploi des seniors.
Est-ce qu'il l'a réglé?
Vous savez, il y a des propositions qui ont été faites en ce sens. Là, le débat commence à l'Assemblée nationale. Vous avez un certain nombre de parlementaires qui veulent accroître les sanctions contre les entreprises qui se séparent très très vite de leurs seniors. Donc oui, les choses...
Il a été dit qu'elle était parfaitement inapplicable. Ce projet était parfaitement inapplicable.
On a retrouvé le sonore. Vous voulez l'écouter?
On l'écoute très vite.
Emmanuel Macron, il y a quelques années.
Dans les trois ans à venir, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas.
Il a du mal à arriver, Emmanuel.
Voilà. Vous l'avez entendu?
Ah non, j'ai rien entendu.
On va le remettre. Non, mais remettons l'extrait.
Non, mais c'est pas grave.
Concentrez-vous. On met l'extrait. Écoute.
Dans les 5 ans à venir, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas.
Voilà.
Oui, mais là, vous coupez à je ne crois pas. Et derrière, il y a quand même un certain nombre de choses.
Il y a toute une argumentation.
On n'est pas à l'ère de la petite phrase.
Pas tous en même temps. Mehdi Djezzeri qui vient de nous rejoindre.
Bonjour déjà tout le monde, désolé du retard. Emmanuel Macron n'avait clairement pas cet avis il y a quelques années. Olivier Dussopt aussi.
Il a milité pour les 60 ans.
Il l'a dit. Bon.
Ça, on fait quoi? D'accord. On le dit ici toutes les semaines qu'Olivier Dussopt a changé d'avis.
Mais c'est pas un argument.
Il accepte le programme, il accepte cette mesure qui a été proposée par le président de la République dans son programme pour les élections présidentielles.
Alors, moi, je suis je suis pas LFI, je suis pas parti.
Non, je sais bien.
Je vais pas vous dire si j'aime ou pas la réforme.
On le dit toutes les semaines, mais je trouve que c'est plus un argument.
Qu'est-ce que vous dites, vous?
Moi, ce que je dis, c'est que le moment a été très mal choisi. Et que ce qui m'intéresse aussi derrière, c'est de voir la prochaine loi, parce qu'il y a aussi la loi pour l'immigration qui va arriver derrière. Oui. Donc j'ai envie de voir ce qui va se passer avec ça. Parce qu'en fait, finalement, là, on est en train
mais
de.
Mais là,
voir
on parle des concessions justement par Elisabeth Borne qui sont proposées.
Oui, parce qu'ils sont obligés.
Est-ce que c'est les bons scénarios?
Elle est obligée de le faire parce qu'en ce moment, chez les Républicains, on voit que il y a des petits doutes. On ne sait pas encore. On va dire que pour l'instant, je crois qu'à un moment donné, ils se sont dit, c'est sûr que ça va passer 149.3, 147.1. Là, maintenant, ils ont un doute. Donc, forcément, qu'ils vont faire des concessions. Maintenant, je pense sincèrement que si jamais les Républicains ne suivent pas Elisabeth Borne à 100% derrière, elle va forcément passer par le 47.1. 49.3, je ne pense pas. 47.1, c'est sûr.
Vous savez, quand il y a un projet de loi qui est proposé par le gouvernement, il laisse aussi des marges de manœuvre au Parlement pour pouvoir se saisir de questions. Donc, vous ne pouvez pas dire que le gouvernement fait ça simplement parce qu'il a peur du 49.3.
Je pense
qu'il y a un certain nombre d'améliorations.
Sur France 2, Elisabeth Borne a quand même dit qu'elle n'allait pas user du 49.3. Donc, si elle utilise derrière,
je pense qu'il y aura la majorité.
Elle aura menti et il ne faut pas qu'elle fasse ça en termes de communication. Il y a la loi immigration qui va venir juste après.
Pour voter ce texte. Enfin, ça, c'est évident.
Il y a des divisions quand même au sein des Républicains.
Oui, mais alors, il y a une majorité silencieuse. On parle de qui, là? On parle d'Aurélien Pradier. On parle de quelques députés. Ça, c'est ceux que les médias invitent pour dire... voilà. Et en plus, ce qu'ils font, si vous voulez, ils renoncent à tout ce qu'ils ont défendu jusqu'à présent. Bruno Le Maire le demandait, un peu de cohérence à ces députés-là. Et ils ne sont pas beaucoup. Ils sont peut-être une dizaine, pas plus.
On continue d'en parler parce qu'effectivement, je voudrais qu'on avance sur ce sujet. 18h51, 52 précisément. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 19h précisément, si vous venez de nous retrouver. Nous sommes ensemble pour évidemment 30 minutes encore dans les informés avec Jean-Pierre Colombiès, Mehdi Djezzeri, avec Philippe Nadjiboyaki et enfin avec Nabil Aïtakash. Alors, justement, l'Assemblée nationale, les débats qui vont s'installer, ça y est, ça a commencé déjà, ou le même d'ailleurs, concernant la réforme de retraite. Vous dites, Nabil Aïtakash, de toute façon, ils auront la majorité, ça passera.
Moi, je crois que
vous êtes convaincu de ça.
Alors, il va y avoir un débat, c'est sûr. On va voir comment les débats se passent aussi, puisque les.
Donc, il faut amener les républicains vers la réforme.
Il faut que les républicains comprennent qu'en fait, ils vont voter quelque chose pour lequel ils sont engagés déjà depuis un certain nombre de temps. Oui. À la fois Valérie Pécresse et à la fois les députés qui se sont présentés sous les républicains, sous la base du programme présidentiel de Pécresse. Moi, je pense même pas qu'on arrive. Enfin, c'est même le 49-3, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais je crois que le projet sera adopté. Avec une majorité à la
Sorbonne. Jean-Pierre Colombiès.
Le MoDem est bien allié à Renaissance, on est bien d'accord.
Oui. MoDem, Horizon.
Et qu'a dit Bayrou par rapport à cette réforme? Bayrou est contre en l'état.
Non, Bayrou n'est pas contre.
Il a dit c'est pas le moment.
Et la présidente, justement, de Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, absolument, elle dit, elle tacle les députés de droite en leur disant que vous faites de la démagogie. Elle fustige la démagogie.
Oui, elle a raison.
Est-ce que c'est une bonne stratégie? Alors, justement, Elisabeth Borne, elle veut chercher des voix.
C'est pas qu'elle cherche des voix, c'est qu'il y a un dialogue qui s'installe avec les forces politiques du pays. Et qu'il se trouve que les Républicains sont ouverts au dialogue, contrairement aux autres formations politiques. Et qu'ils défendent aussi ce projet de réforme et la nécessité de faire quelque chose pour pouvoir continuer à payer les retraites de nos aînés dans quelques années.
De vous ?
Déjà, c'est de nos aînés. Hein. Mmh. On parle de 2030. Hein. Moi, je ne pars pas à la retraite en 2030.
Oui, mais ça concerne les générations
déséquilibré. Non, mais en fait, il est là le problème. C'est que vous croyez que le système, il va être déséquilibré pour nous. Enfin, pour moi. Déséquilibré pour les gens qui vont partir à la retraite, là, dans les prochaines années. Donc, il faut faire quelque chose.
Si nous
prenons la responsabilité de le faire. Et c'est encore une fois, c'est un effort qu'on demande. À l'ensemble de
qu'est-ce que je veux dire, Jean-Pierre?
On le fait tous.
Non, mais moi, comme je l'ai dit, je le répète, je ne suis pas économiste, d'accord? Donc, je n'ai pas une connaissance technique des dossiers par rapport à ça. Mais j'écoute.
Les économistes, ils ne sont pas d'accord.
Ça ressemble un peu au Covid, au débat du Covid. Chacun y va un peu de la sienne. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'ensemble des organisations syndicales sont unanimement contre, font des propositions de financement que je ne vais pas être capable de décrypter.
Mais moi, je suis capable de vous les décrypter. Ah. Donc, qu'est-ce que demande la NUPES? C'est 110 milliards d'impôts en plus. Concrètement, c'est ça.
J'ai regardé les amendements
de ce que propose.
Plus de 13 000 amendements proposés par LFI.
Je crois 18 000 même. Hein.
Ou 18 000. J'ai de mémoire, moi, 13 000.
C'est 20 000 en tout. 20 000 en tout, ce qui fait que c'est de l'obstruction, en fait. Il n'y a pas de débat. Mais j'ai regarder les amendements, qu'est-ce qu'ils proposent? Vous avez par exemple les heures supplémentaires. Un Français sur deux aujourd'hui, un actif sur deux fait des heures supplémentaires. Oui, voilà. Donc il y a un dispositif que nous avons rétabli sur le premier quinquennat. C'est l'allègement des. Voilà. Ils veulent supprimer ça. Donc ça veut dire qu'un Français sur deux, deux tiers des ouvriers font des heures supplémentaires. Donc c'est ça en fait la NUPES. C'est on va taxer. Ou alors on supprime les allègements, ce qu'ils appellent eux des cadeaux fiscaux, et derrière, qu'est-ce qu'ils payent? C'est les plus modestes. Donc moi je vous le dis, que c'est très facile de dire ah oui, il y a d'autres solutions. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'autre alternative à part augmenter les impôts. L'argent magique, ça n'existe pas. Alors, moi je vois
Berger qui attaque la droite, mais c'est une bonne
chose.
Mais moi je vous ai dit, elle attaque pas la droite. Elle fustige les députés républicains, les quelques députés républicains à qui on donne une voix prépondérante. Alors vous avez une majorité silencieuse. Non, vous avez une majorité silencieuse qui va voter cette réforme et qui se satisfait.
C'est spécialement une bonne stratégie pour attirer des gens dans son camp. Je pense que
c'est la présidente de l'Assemblée nationale.
Sur le fond,
Philippe Ndjibouyeki.
Alors, je connais un peu Aurore Berger puisque je la croise de temps en temps à la région, mais quand je dis de temps en temps, c'est pas une blague parce que faudrait vraiment qu'ils établissent le podium de ceux qui sont présents. Moi, j'ai 100% de présence, donc tout va bien. Je voulais juste dire que effectivement. Depuis la nuit des temps, enfin depuis que je suis en politique, cette réforme des retraites, elle aurait été portée par un gouvernement de droite. Je crois que j'aurais pas vu de différence, quoi. Mmh. Donc ça va être très compliqué.
Elle était lancée par la gauche. Hein.
ou d'un gouvernement de gauche.
Il a raison, David.
Si.
La loi Touraine.
C'est 62.
La loi Touraine.
La seule différence avec Marisol Touraine, c'est qu'en effet, elle ne. Je l'ai écouté, Marisol Touraine, la semaine dernière. Elle dit oui, alors il faut simplement jouer encore encore sur les annuités. Mais dans ce cas-là, si on joue sur les annuités,
on joue sur les annuités, c'est
45 ans.
C'est
45 ans.
Ce que je veux dire par là, cette réforme des retraites, elle aurait pu être portée par François Fillon, par Juppé, par Sarkozy, enfin vraiment. En plus, là, ils y mettent jusqu'à les régimes sociaux. Alors, par contre, nous, on est complètement opposés parce qu'on dit ils sont excédentaires. Donc, pour quelle raison ? Alors, on nous parle d'équité. Non.
C'est de la justice.
Non, c'est pas la justice. Il y a des accords cadres d'entreprise. Il y a un contrat qui est signé. Il y a une parole donnée. Moi, j'étais machine transformer à RATP. Moi, quand je suis rentré à RATP, j'ai signé un bulletin d'engagement qui contractualisait ce que j'allais faire, ce que j'allais donner à mon entreprise et ce que mon entreprise me donnait. D'accord ?
Oui, mais là, vous savez que c'est que pour les nouveaux entrants.
Non, laisse-moi finir. D'ailleurs, ça a été modifié au 1er janvier 2009 et d'ailleurs, ça a été modifié par lorsque Jean Peluchon était président du STIF. Donc, tout va bien. T'inquiète pas, je les remets en place lorsqu'ils attaquent Valérie Pécresse là-dessus. Je les ai tous remis en place, chaos technique. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu signes un contrat, c'était un contrat. S'il y a une modification de contrat, eh ben, il doit donner un dédommagement clair, net, selon les trébuchants.
Maintenant,
quand on parle de justice en me disant pourquoi un chauffeur de bus de la RATP, ça s'appelle machine receveur, mais bon, chauffeur de bus de la RATP partirait plus tôt que celui de Lyon, j'invite les Lyonnais à se battre pour avoir les mêmes droits. Il faut tirer par le haut et pas par le bas. Et si les caisses étaient déficitaires, à ce moment-là, je veux bien entendre. Là, sauf qu'on veut récupérer des milliards qui sont pour la SNCF et la RATP et les injecter dans le système direct. Pas de démagogie d'un côté comme de l'autre. Moi, je dis la chose suivante. Il faut réellement poser les choses sur la table. On vit de plus en plus vieux et donc par conséquent, est-ce qu'on peut avoir le même niveau de pension ? Est-ce qu'il faut donner moins ? Est-ce qu'il faut donner plus ? Et tout ça doit être posé sur la table. Et ce débat, en vérité, de fond, n'a pas eu lieu avec la population. Il a eu lieu avec des organisations syndicales qui sont intermédiaires, qui sont arc-boutées sur leurs dogmes et leurs bases les obligent à ça.
C'est pas tout à fait ce qu'ils disent, justement.
Ah bon ?
Oui, non, ils disent que justement ils n'ont pas été associés aux véritables négociations préalables. Il n'y a pas eu de débat.
Il y a eu des discussions.
Macron a présenté ça dans son programme de présidentiel.
Non, mais parce que
je m'excuse.
Laurent Berger a passé la discussion.
Est-ce que c'est des discussions ou des concertations ?
Mais voilà. Oui, c'est vrai. C'est
pas la même chose. C'est pas la même chose.
Ils sont arrivés avec un gros bloc. Ils ont dit nous, ça sera ça.
Ils ont joué le coup de l'international en allant voir l'Ukraine.
Moi, je peux concerter.
Mais c'est pas joué.
Mais en fait, je comprends pas seulement. Mais ça s'appelle pas jouer l'international. Il y avait une crise internationale grave et dans laquelle les chefs d'État européens ont dû prendre leurs responsabilités. Que vous attendiez ? Qu'en fait, on laisse la Russie envahir un autre pays, les principes et les fondamentaux de la démocratie. Arrêtez de dire jouer sur l'international. Ça ne veut rien dire.
Je n'arrêterai pas.
Jean-Pierre Colombier.
Non, j'arrêterai pas. Dans la mesure où il aurait très bien pu passer son tour à la présidence et se consacrer avec honnêteté à la campagne présidentielle et en allant débattre justement ce qu'il sait si bien faire. On l'a vu pendant les.
Alors, autre sujet.
Des gilets jaunes.
Autre sujet, je voudrais qu'on avance, il est 19h07 précisément. C'est les tensions entre la NUPES et le gouvernement. Vous savez quoi ? Parce qu'il y a une déclaration qui n'est pas passée inaperçue, c'est celle du ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin, qui évoque évidemment. Tiens, on a un petit extrait. Mélenchon est millionnaire. Moi, je ne le suis pas millionnaire. En faisant référence évidemment au patrimoine. Écoutez l'extrait. C'était chez la radio RTL. Voilà, justement avec cette déclaration. Autant dire que, évidemment, il les. De gauche de bordéliser le pays, et voilà. Comment ça que ça ?
Que des punchlines, il nous fait le Sandrine Rousseau de Renaissance.
Adil, si je devais analyser la chose, moi je dirais juste qu'il y a eu, deux stratégies entre guillemets de la part du gouvernement. Il y a eu la première stratégie qui est de faire de l'infantilisation. On vous explique, voilà, vous êtes des enfants, on vous explique ce qu'est la réforme des retraites sans que personne ne comprenne ce que c'est. Parce que, allez voir, faites un micro-trottoir chez Beurre FM, vous allez voir que personne ne comprend ce que c'est que la réforme des retraites.
Et je mets
quelqu'un ici au défi de m'expliquer concrètement ce que c'est et d'avoir le même discours qu'un autre. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est la teneur des discours.
Ce dont je me garde bien, très cher ami.
Voilà, et ensuite, parce que moi je parle aussi, mais je pourrais pas vous expliquer ce que c'est que la réforme des retraites, j'ai rien compris.
Mais alors il faut pas en parler, je pense.
Écoutez les déclarations. Écoutez les déclarations du ministre de l'Intérieur. Écoutez.
Monsieur Mélenchon, il a un patrimoine, il est millionnaire. Je suis très heureux pour lui parce que moi, je suis pas jaloux. Moi, je suis pas millionnaire et j'ai pas de patrimoine. Mais je veux dire que ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail et du mérite et de l'effort. Et peut-être que ça me donne une petite façon de leur dire arrêtez votre hypocrisie, arrêtez parce que ça se voit trop. Et je pense que les gens l'ont vu aussi.
J'adore.
La punchline de Darmanin. Arrêtez votre hypocrisie, le mérite du travail.
Il a commencé avec la pédagogie, il finit par attaquer. C'est comme ça. Il y a eu la période pédagogie, on est gentil avec vous, on vous explique, on essaie de discuter. On voit que ça marche pas, maintenant on attaque. C'est une stratégie comme une autre. Il n'y avait pas forcément.
Ah, il attaque pas, il met une vérité.
Non, il attaque. Il a attaqué Sandrine Rousseau la dernière fois sur le droit à la paresse. Il a attaqué.
Oui, c'est normal, attends. On te dit, on a le droit de ne pas travailler. Mais d'accord,
mais oui, il faut répondre. Enfin, il y a un moment, ça s'appelle la responsabilité. On n'est pas là pour laisser passer
Est-ce qu'il aurait dû dire ça ou pas? Je suis en train de faire un constat. Il y a deux stratégies. La première, ça a été de faire de la pédagogie. La deuxième, ça a été d'attaquer. Là, il est en train d'attaquer. Jusqu'où ça va aller? C'est la question. Et puis, moi, je pense que je mettrais même en corrélation l'extrait de Gérald Darmanin et même ce qu'a dit Aurore Berger à l'Assemblée. Je pense que c'est dans la même stratégie. Je pense qu'ils se sont dit, on va les attaquer maintenant. Ça y est, on a été assez gentils.
On crée la confiance.
Maintenant,
on crée la
polémique. Ça va passer. Oui. Maintenant, on s'en fout. Oui. Ça va passer. Maintenant, on va les attaquer.
C'est le triptyque. Je suis désolé, hein, tant pis si ça fait pas plaisir, mais c'est le triptyque de la communication gouvernementale depuis plus de 5 ans. On crée la confusion et on ment par la même occasion. Et au final,
mais c'est grave. C'est très très grave ce que vous dites. Vous accusez un gouvernement de mensonge. Je sais pas. Non, mais sérieusement, je pense que vous savez pas ce que c'est qu'une dictature. Je pense que vous savez pas ce que c'est qu'un pays où vous avez des gens qui mentent. Aux gens, vous ne savez pas.
Et vous, ça ne vous gêne pas qu'un ministre de l'Intérieur mente, notamment lorsqu'il y a...
Mais là, on ne parle pas de...
Non, mais laissez-moi finir. Je vous parle d'un trait de caractère qui est quand même gravissime.
Non, en fait, vous alimentez les populismes.
Non, mais il ne veut pas. Mais bon, moi, je suis désolé quand j'entends un ministre de l'Intérieur, par exemple, pendant une finale de Coupe d'Europe qui parle d'anglais, il voit des anglais partout, devant la représentation nationale. Ça devrait vous interpeller. Ça devrait vous choquer.
Le ministre de l'Intérieur
a raison sur les propos qu'il a tenus sur Jean-Luc Mélenchon. C'est une réalité et c'est factuel. Maintenant, moi, les propos qu'il a dit en parlant de ça m'a touché. Quand il a parlé de ses parents, moi, c'est ce que m'a légué mon père. Il m'a dit.
Le mérite du travail,
c'est pourquoi on le fait.
Non. Moi, mon père et ma mère, ils m'ont légué une chose qui s'appelle...
Laissez-le parler.
Le travail et le courage. Et ça tombe bien, quand t'es dyslexique et dysorthographique, t'as bac-3, t'as intérêt d'en avoir un paquet. Et moi, ils m'ont donné des cargaisons. Et ça m'a permis de me constituer un petit patrimoine à la sueur de mon front. Et j'en suis très fier. Je suis pas millionnaire comme Jean-Luc Mélenchon.
Et M. Darmanin, il a l'exclusivité du courage et de l'honnêteté morale.
Il remet en fait... On peut demander à Jean-Luc Mélenchon combien il touche de retraite, là?
Mais faut pas focaliser sur Jean-Luc Mélenchon.
Non, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, touche combien de retraite?
Sur Gérald Darmanin.
Sauf qu'il y en a un qui est ministre et pas l'autre.
Mais il y en a un qui est responsable.
Mais ils ont le droit de focaliser sur Jean-Luc Mélenchon.
Il y en a un qui est quand même leader.
Alors allez-y.
Il a été député, il a été conseiller régional, Jean-Luc Mélenchon, je dis simplement, et je le répète, qu'on se fout de ce débat. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça.
Non, mais moi, j'ai
non, je. Non, elle a tout son sens. Non, la déclaration, elle a tout son sens.
J'aimerais juste réagir sur ce que tu as dit, Philippe. En fait, moi, pour moi, ce qu'il a dit aussi, je le vois un peu que, enfin, la valeur travail, c'est cette espèce de phrase qu'on va beaucoup entendre. Hein,
c'est bien.
Mais non, mais c'est bien, d'accord. Sauf que
oui, parce moi, qu'il ne faut pas raconter des histoires aux gens.
Je viens de commencer à parler. Merci. Je vais vous dire juste simplement quelque chose. Rappelez-vous quand on a eu la crise énergétique et qu'on a eu Elisabeth Borne avec sa doudoune et qu'on a eu tout le monde avec leur col roulé. En fait, c'est cette espèce de répétition constante. La valeur travail. C'est ça surtout. C'est pas. Il y a rien à voir avec sa famille. Je pense pas qu'il a envie de nous faire une déclaration sur sa famille, sur son papa. Il y a rien de mignon là-dedans. C'est de la politique. C'est simplement un jeu politicien ce qu'il est en train de faire. Et il est en train de faire exactement la même chose que Bruno Le Maire et Elisabeth Borne. Quand il y a eu à l'époque,
il explique tout simplement que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais transpiré, sauf s'il était sur une plage à Cancun.
En gros, les donneurs de leçons.
Aller faire le tour des leaders d'Amérique latine très contestés. Enfin voilà, je comprends pas. Je comprends pas ce que vous dites. Vraiment, on peut en parler encore des heures et des heures.
Oui, on en parle.
C'est un vrai sujet en fait. Et moi, je trouve qu'il a raison. Encore une fois, j'aime bien le dire. La France insoumise, l'extrême gauche, et je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien.
C'est pas quelqu'un ça, non? C'est pas un humoriste, hein?
C'est Jamel. Ils aiment bien parler pour les autres. Ils ont un train de vie. Et moi, je suis très content, exactement ce que disait le ministre de l'Intérieur. Ça me dérange pas, je m'en fiche, mais faut arrêter de raconter des histoires aux gens. Faut arrêter de leur dire.
Ils nous montrent le partage, leurs valeurs sociales, socialistes, communistes.
Ils les ont même pas. Regardez en Seine-Saint-Denis, regardez qu'est-ce qu'ils ont investi en Seine-Saint-Denis. Regardez, vraiment que des gens qui sont là par paternalisme.
Je vous l'aurais dit.
Et bien le débat continue, messieurs. Le débat continue. 01-53-48-3000. Je sollicite nos auditeurs s'ils veulent réagir. A tout de suite, on vous attend au standard.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h20 précisément. Le face-à-face, vous le savez, les informés, c'est avec Jean-Pierre Colombiès. Un débat animé, houleux aussi. Hein. Ça donne une idée de ce qui peut se dérouler au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'hémicycle. Mehdi Jaziri, Philippe Ndjibouyaki et enfin Nabil Takache. Messieurs, juste quelques petits éléments concernant donc évidemment les propos de Gérard Darmanin. On parlait du mérite du travail, on parlait de ça. Moi, je trouve que c'est important, mais après, bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Jean-Pierre Colombiès, à qui je devais redonner la parole? Je crois que c'est à Jean-Pierre.
Ouais, j'aime bien,
ensuite,
ouais,
il y a Nabil.
J'aime bien.
Tiens, quand on filait ses lunettes.
Ouais.
Ça fait sérieux là.
Ah ouais, ouais.
Ah ouais. Ça fait Sciences Po, le jeune premier. Jeune premier.
Moi, je trouve que l'affaire du Barablais.
Mais il a fait Sciences Po, je crois. Oui, il me semble.
Moi, je trouve que l'affaire du chinois est plus importante que Darmanin. Mais bon.
Sciences Po, ça ne veut pas tout dire non plus. Il y a aussi l'expérience de la vie, l'expérience de la famille.
Mais c'est ce que disait Philippe Ndjibouyaki. Qui
parlait de la valeur.
Alors, dites-nous tout, Jean-Pierre Colombiès.
Oui, non, moi, j'ai pas envie. Franchement, à titre personnel, après les autres, on pense ce qu'ils veulent. Je trouve que ça ne vaut pas la peine de s'y attarder plus longtemps. Darmanin, et pas que lui, nous tiennent des discours complètement hallucinés. Là, tout de suite, je pense à Bruno Le Maire qui nous explique avec des grands cris de victoire que les gens vont payer 280 € le prix du mégawattheure au lieu de 42 qui est le prix de revient, le prix de fabrication de base. Ça, je trouve ça scandaleux, mais on n'en parle pas, c'est dommage. Et ce que tu disais était tout à fait vrai, son prénom c'est
Mehdi.
C'est des débats qui détournent l'attention des vrais sujets, des sujets profonds.
Vous êtes d'accord avec ça, vous, Nabil et Takache?
Je crois pas que ce soit nous qui mettons ces débats sur la place. Hein. Nous,
c'est les médias. C'est les médias.
Voilà, donc,
c'est les médias.
Voilà, vous le dites. Donc,
merci. On est d'accord.
Nous, on est sur. On est
oui, mais après, ils savent pourquoi ils le font aussi.
Je
pense que Darmanin, c'est pas un imbécile, c'est quelqu'un de très intelligent qui est ministre. Donc,
mais qu'est-ce qu'on lui reproche dans ce qu'il dit?
Non, mais il n'y a pas à reprocher. Moi, je fais un constat encore une fois.
C'est-à-dire
qu'en
effet, il met le paradoxe, mais... il met cette hypocrisie.
Monsieur Takache, il faut comprendre une fois pour toutes que je ne critique personne, je n'insulte personne, je constate, je fais des constats. Donc moi, c'est que du factuel, je vous lance des faits. C'est un monsieur intelligent, il sait pourquoi il a dit ça, il sait qu'il y a des médias qui vont prendre derrière. Ben voilà, je suis journaliste, je sais que très bien, demain, Gérald Darmanin dit ça, je suis obligé, le rédacteur en chef, on fait une conférence de presse. De quoi on parle? Tiens, Darmanin a dit ça, on va en parler. Donc il sait pourquoi il fait ça. Maintenant, aujourd'hui, voilà.
Moi aussi.
Ah, donc voilà, on sait très bien pourquoi il dit ça. On sait très bien que maintenant, là, une fois qu'ils savent que la réforme en soi a de grandes chances de passer, ça on le sait. Si elle ne passe pas, dans tous les cas, il y a le 47 ans. Voilà.
Et il y a dissolution dans la foulée. Hein.
Non mais voilà, il y a dissolution dans la foulée.
J'ai doute. C'est la procédure normale. Là.
Non mais. C'est soit ça passe, soit c'est 47 ans. Il n'y aura pas de ça passe pas, on est d'accord.
Ah oh.
Oui.
Ouais, parce que tout peut se passer. Tout peut se passer. On peut se dire que tout peut se passer. Donc maintenant qu'on sait ça,
il y a le Sénat derrière.
Oui, il y a sauf que le Sénat est à droite.
On verra.
L'objectif des événements en faisant un 47 ans, c'est que ça passe directement derrière au Sénat. Ça faut le dire. Mais là où ils sont malins, justement, là où justement Gérald Darmanin est malin, comme quoi je ne fais pas que le critiquer, je ne suis pas un gaucho des Léfis.
Pas encore.
Non, merci.
Moi, je les appellerai pas comme ça. Je dis juste qu'ils sont irresponsables et hypocrites.
Ouais,
c'est pas mal non plus.
Ça, c'est pas un nom de parti politique.
C'est pas mal non plus.
Ce que j'aimerais dire simplement, c'est que maintenant qu'on sait que tout va passer, eux, ils veulent éloigner un peu le débat. Je pense même que l'annonce de la loi sur l'immigration est aussi une stratégie. Ah oui. C'est-à-dire, on parle de la réforme des retraites. Voici une nouvelle loi. Surtout que cette loi, elle a été attendue. Donc, en fait, je pense qu'il y a une réelle stratégie autour. Je dis pas qu'elle est mauvaise. Voilà.
Mais non, ça s'appelle simplement aussi le fonctionnement des institutions.
Ça s'appelle le fonctionnement des institutions. S'il vous plaît, Nabil Takache.
Il y a des sujets qui passent en Conseil des ministres. La loi immigration est passée en Conseil des ministres avant d'arriver.
Oui.
Avant d'arriver
le timing,
à.
Parce que le timing est politique. Le timing est politique. Le timing, c'est pas du tout.
Il y a un calendrier. Il y a un calendrier qu'il faut respecter. Le passage du projet de loi. Au Conseil d'État, ensuite devant le Conseil des ministres, et ensuite au Parlement.
On parle du passage, on ne parle pas de la communication sur cette loi. C'est pas la même chose.
Quand vous avez un Conseil des ministres avec à l'ordre du jour la loi immigration, c'est les médias qui vont se saisir de ça aussi.
C'est pas les médias qui se saisissent. Je ne pense pas qu'on va toquer à la porte de calendrier Darmanin sans aucun contexte et lui dire « Monsieur, parlez-nous de la loi retraite alors que vous n'en avez pas parlé. C'est lui qui en a parlé. Ne nous prenez pas pour des bleus. »
Je comprends même pas. Et alors, en fait.
Mais je suis en train de dire encore une fois, une stratégie de communication.
Et un dernier sujet.
Aujourd'hui, la réforme de retraite fait beaucoup de bruit, que les gens sont contre.
Ah oui, le ballon.
Enfin, je vous rappelle quand même les fortes mobilisations. Ça, c'est pas rien. C'est pas un truc à négliger. Et ben, comment est-ce qu'on se sort de ce bordel justement, comme on en a parlé en off, du fait qu'Emmanuel Macron, lui, ce qu'il veut faire. Et ça, C'est indéniable.
C'est encore là, un autre sujet. Restons sur la réforme des retraites.
Mais il règle d'abord toutes les affaires à l'intérieur du pays, les affaires un peu compliquées. Après, lui, il se casse à l'international.
Allez, 19h24. 25 même.
Donc, qu'est-ce qu'il fait?
Non, mais attendez, il faut qu'on avance.
Je finis mon propos.
Allez-y, vite.
Simplement mon propos. Moi, simplement, ce que j'aimerais dire, c'est que là, maintenant, une fois qu'il a fait tout ça, là, c'est très simple, c'est communication sur autre chose pour qu'on arrête de penser à la réforme des retraites, pour que les mobilisations arrêtent d'être aussi puissantes. Sauf que bon, je pense qu'elles le seront tout autant. Voilà.
Non, les vacances vont terminer les mobilisations.
On verra.
Je pense qu'elles seront. Le français, tu touches pas.
Allez, messieurs, tout de suite, je voudrais direction les États-Unis parce que je veux vraiment qu'on en parle. Vous savez quoi, avec ce ballon qui a été ballon espion, qui a été abattu par les Américains, Pékin déplore le geste de Washington. Alors, ça, c'est un deuxième ballon espion chinois aperçu aux Caraïbes. Oui, il y a un peu de temps, on l'a su. Alors, justement, cette histoire de relations, est-ce que ça risque pas de. Est-ce que d'abord, un. Les relations diplomatiques, est-ce qu'elles sont affectées? Première question. Et puis deuxième, c'est que c'est quand même deux grandes puissances.
Et oui.
Qu'on le veuille ou non.
Et dont une qui joue depuis qu'elle est née, depuis que cette puissance est née, pour ainsi dire, je parle des États-Unis, qui a toujours fonctionné par récupération des images et provocation. Provocation politique et qui, j'espère, ne déboucheront pas sur des incidents plus graves. On parle peut-être d'un ballon météorologique, là, quand même. Hein. On ne parle pas d'un ballon militaire qui a été abattu par un avion.
Mais il faut arrêter.
Bon.
Mais laissez-le. Pourquoi vous le censurez? Laissez-le exprimer sa pensée.
Je vois pas. Non, mais à l'heure des satellites, vous allez m'expliquer concrètement l'intérêt de la Chine d'envoyer un ballon sonde au-dessus des États-Unis que tout le monde voyait à l'œil nu. Alors, excusez-moi, mais en matière d'aéronef, d'espionnage,
vous êtes expert. Vous êtes expert en intelligence et en espionnage.
Non, mais j'aime beaucoup l'histoire, si vous voulez.
Mais moi, je vous rappellerai simplement que
les États-Unis ont toujours fonctionné par provocation. Toujours. Voilà.
D'accord. Et donc vous préférez.
Nabil et Akash. Alors, vous dites quoi?
Alors, je pense que les États-Unis ont eu raison de détruire ce ballon.
Mais encore, ils
l'ont pas fait incontestable. Il est incontestable que c'est un ballon d'espionnage. Voilà. Voilà. Donc, oui, ça va affecter, pour répondre à votre question.
Vous savez comment?
Les relations diplomatiques sur le court terme. Mais une relation diplomatique, c'est du moyen long terme. Là, vous avez le secrétaire d'État qui a annulé sa visite.
C'est anecdotique.
En Chine. Les Chinois peuvent s'offusquer. Et demain, si vous préférez un monde dirigé par les Chinois, je vous assure qu'ils ne se comporteront pas de la même façon que ce comporte la superpuissance américaine.
Là n'est pas le débat. En fait, ce que j'aimerais juste.
Mais Jésus Zéry et ensuite Philippe Nadjiboy.
Il y a quand même eu des ballons. Pour répondre à votre question, il y a quand même eu des ballons qui ont flotté au-dessus de Taïwan aussi. Comme par hasard, Taïwan.
Aux Caraïbes, là aussi.
Aux Caraïbes. Enfin, je veux dire, en fait, à la limite, vous me dites, il y en a un qui flotte au-dessus du Bangladesh, là, je pense que ça pose des problèmes à personne. Mais là, c'est quand même des zones stratégiques. Maintenant, aussi, il y a aussi toute une communication géopolitique. C'est aussi le côté un peu regarder. C'est une espèce de provocation de la Chine. C'est regarder, en fait, on peut faire ce qu'on veut de vous, on s'en fout. Et puis, autre chose aussi, c'est aussi de dire, regardez, il y a eu la Russie à une période, maintenant, la Russie, c'est fini.
Nous, on est là aussi. Vous pensez qu'envoyer un ballon, c'est faire ce qu'on veut d'un pays?
Non, mais non. C'est une communication.
On peut parler d'espionnage, la question se pose.
L'espionnage, en vérité, on peut le faire autrement. On n'a pas besoin forcément de ballons. Il y a des satellites, il y a plein de choses. Mais c'est aussi une communication. C'est-à-dire que là, on est bien d'accord, mais il faut répondre.
Regardez,
par exemple, la guerre en Ukraine. Je vais vous prendre un exemple parallèle. La guerre en Ukraine, en ce moment, il y a la guerre. On est d'accord sur le terrain, il y a la guerre. Mais c'est surtout une guerre de communication entre les États-Unis. Et la Russie aussi, d'une certaine manière. C'est la même chose. C'est une guerre de communication.
Philippe, on l'a pas entendu.
On rentre dans une guerre mondiale, mais de la communication.
Philippe Nadjiboy,
je rejoins un petit peu l'avis de Jean-Pierre pour connaître un petit peu le sujet. C'est à l'ère des satellites, à l'ère des virus via les ordinateurs, avec les malwares, etc. Il y a quelque chose de paradoxal dans ce ballon. Vraiment, si tu veux espionner quelqu'un, t'en vas pas à ce ballon-là. Voilà. Sinon, t'es vraiment un pied nickelé. Et je sais pas qui est le responsable, en tout cas, des services de renseignement chinois, mais s'il y en a un, il est mort, hein. On va le faire exécuter. Pékin, je suis disponible. Si vous voulez, j'y aille pour vous.
Non, mais
par contre, c'est un message qu'on envoie en disant, F-U-C-K, voilà. Et donc, en gros, effectivement, pour éviter, parce qu'il y a l'ARCOM derrière et je voudrais pas que vous ayez des soucis. En gros, Taïwan, on pourrait commencer à s'inquiéter dès maintenant.
Ça c'est évident, mais là, d'ailleurs,
ils ont déjà préparé tout, ils ont préparé les flottes.
Et alors là, ça me fait doucement marrer, parce qu'on a bloqué les avoirs des citoyens russes vivant en France parce qu'il y a un conflit russo-ukrainien. Je serais curieux de savoir ce que nous ferons lorsque, effectivement, si la Chine passe à l'acte et qu'elle attaque Taïwan frontalement, déjà ce sera une guerre avec les États-Unis. Clairement, oui. Et qu'est-ce qu'on va faire des milliers et des milliers d'entreprises qui sont installées en Chine, qu'on a délocalisées là-bas pour rapporter beaucoup plus aux actionnaires? Comment va-t-on faire pour les
rapatrier en un mois? Merci messieurs, 19h30. Merci à Mehdi Jaziri, au plaisir. Merci à Jean-Pierre Colompiès, au plaisir. Philippe Najib Boryaki, au plaisir également. Et enfin, Nabil Takash, au plaisir également. Merci.
Merci, bonsoir à tous.
Merci messieurs. À la réalisation, c'était Anthony, Bilal Lenman de 20h à 21h. Ensuite, Vanessa à partir de 21h. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir, mais surtout,
on ne lâche rien.
On ne lâche rien.
Ciao, ciao. À demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.